Merci au Seigneur pour sa présence, son cœur, sa gloire, sa puissance. Son évolution, toujours présent, toujours disposé de toutes choses. Il est là, un trône de grâce, accessible à n'importe quel moment, dans le moment auquel nous avons l'assurance de trouver grâce et ce grand temps. Au besoin. Merci Seigneur. Quel Dieu merveilleux nous avons. Et il a aussi, pour chacun de nous, une qualité, une dimension de vie extraordinaire. Vous pouvez ouvrir avec moi l'épître de Paul aux Romains. Voilà, le PowerPoint s'affiche. Vous savez que nous étudions dans cette partie, chaque mardi. J'ai eu à cœur, après avoir abordé les lettres des Jean pour les églises de l'Apocalypse, j'ai à cœur aussi d'aborder les épîtres de Paul, comme aux églises. Il a écrit à des communautés. Et bien sûr, on peut parler de la totalité de ce qu'il y a dans les épîtres, mais il y a forcément des pensées maîtresses qui se dégagent. Il y a des grandes doctrines. Notamment la justification par la foi, la libération du péché. Ce soir, on va parler de consécration. Et on a, dans les livres aux Romains, on a déjà commencé à considérer la justification par la foi. On a vu trois points importants. La justification par la foi, l'apôtre Paul est clair. Il insiste sur le fait que, vu l'état de péché et de condamnation de l'humanité, il ne peut pas y avoir devant Dieu un seul juste, pas même un seul. Personne n'est approuvé de Dieu, personne n'est accepté, personne n'est agréé de Dieu. C'est une impossibilité totale. Le seul juste, avec un J majuscule, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui, par son sacrifice volontaire, est la victime propitiatoire qui va apaiser la colère de Dieu et qui va satisfaire la sainteté de Dieu. L'apôtre Paul démontre, bien sûr, la supériorité de la justification par la foi, autant pour Abraham, dès le commencement, que pour les croyants, que pour nous, des bienfaits de la justification. Maintenant, nous avons la paix avec Dieu, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes sauvés de la colère. Et ce qui amène l'apôtre Paul, quand il termine cette première partie, c'est le début du chapitre 5, il lance ce cri de victoire. Étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et c'est une grâce, grâce dans laquelle demeurons fermes. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à traiter autre chose. Parce que, autant pour les Juifs de cette époque, que pour les païens arrivés à la foi, que pour les Juifs qui avaient connu la première alliance, que pour les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, eh bien, il y a des questions qui se posent parce que, comparé à la complexité de la première alliance, la seconde, excusez-moi, elle a l'air quand même bien fastoche. Le Seigneur a tout accompli et moi, dans tout ça, déjà, qu'est-ce que devient la loi? En plus, quand je considère qu'il y a quand même dans ma vie tellement de points qui ne sont pas réglés, combien de fois je retombe dans les mêmes chutes, dans les mêmes addictions, les mêmes travers, les mêmes vices, les mêmes péchés, et puis de tout ça, finalement, comment est-ce que je suis totalement vainqueur sur le péché? Comment est-ce que je peux, pardonnez-moi, par moment, vaincre ce fichu caractère, parce qu'il y a des choses qui sont là, je sens que ça me colle à la peau, et l'apôtre Paul montre tout ça, et il insiste pour rassurer déjà les croyants, évidemment, la grâce dans laquelle vous devez demeurer ferme n'est pas un prétexte à pécher. Pourtant, vous avez des luttes, vous avez des combats, des chutes, des rechutes, et en se chassant derrière, il y a cette question que tous les chrétiens se posent tôt ou tard, comment est-ce que je vais changer de caractère? Comment est-ce que je vais expérimenter une victoire totale et définitive sur le péché? Et l'apôtre Paul est clair, il va nous montrer le chemin par lequel il faut passer, mais d'abord, il va montrer le chemin par lequel il ne faut surtout pas essayer de passer. Parce que tout le monde a essayé de passer, et c'est là que l'apôtre Paul insiste qu'il y a toute une partie, et là, on est sur les chapitres 6, 7, 8, parce qu'en réalité, justifié par la foi, libéré de la loi, libéré de la puissance du péché, consacré totalement à Dieu, sont des grandes thématiques qui en réalité sont imbriquées les unes dans les autres, comme une roue, et qui font avancer le truc. Et là, moi, je vous les présente de façon un peu disséquée, pour que vous puissiez comprendre sous une autre forme, mais l'apôtre Paul est clair, puisque La puissance du péché, c'est la loi. Il faut absolument que les chrétiens comprennent qu'il est libéré de la loi, et par besoin de la loi de Dieu. Donc l'apôtre Paul va confirmer la loi, mais il va surtout en clarifier la vocation et démontrer ses limites, surtout le fait que la loi de Dieu est absolument incapable de changer qui que ce soit ou quoi que ce soit dans ma vie. Et ce n'est pas seulement de la loi de Dieu dont il est question, qui est sainte, parfaite, absolue. La loi est l'expression de sa perfection suprême. Mais si la loi de Dieu, Paul est clair, est incapable de me changer, par voie de conséquence, ce n'est pas tes rites, tes traditions, tes interdits, tes obligations et tout le travail, même du style de bonne volonté, tout le travail que tu essayes de faire sur toi-même pour te canaliser, pour te dominer, pour te maîtriser, pour résister au péché, pour ne pas t'énerver, parce que le Seigneur, lui, il me dit qu'il est patient. Le Seigneur, il regarde mon frère, ma sœur, qui effectivement est, et on ne va pas se mentir, oui, il est pénible. Oui, elle est pénible. Le Seigneur, il le regarde, il la regarde, il lui tend les bras, il est patient, il l'entoure. Et moi, je suis là, ils ont un croche, et je me dis, je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas m'énerver. Ça, ce n'est pas de la sanctification, ça. Et le Seigneur, l'apôtre Paul montre que si la loi de Dieu, aussi parfaite soit-elle, est déjà dans l'incapacité, je me change. Ce n'est pas mes lois, mes interdits et tout le travail que je fais sur moi pour essayer de mener une vie chrétienne digne de ce nom qui va produire quoi que ce soit. Donc j'ai besoin de comprendre dans un premier temps que je dois être libéré de la loi, libéré de mes lois, de tous mes efforts vains, carnels, prétentieux qui ne font que exacerber mon orgueil, satisfaire ma chair, me faire replonger, je remonte un peu, je replonge, machin, etc. Jusqu'au jour où je me dis, mais qui va me changer? Qu'est-ce qui va faire, Seigneur? Ça fait 10 ans, 20 ans, 15 ans, je suis dans l'église, je suis dans la foi, je prie, Seigneur, et je suis encore là, je suis encore capable de ça. Seigneur, qu'est-ce que j'ai raté? T'as juste raté l'épître aux Romains, c'est tout. Libéré de la loi, libéré de tes lois. Et c'est de ça qu'il faut vraiment être conscient. Dégagé de la loi, mort à cette loi. Romains 7, Romains 10, Christ est l'accomplissement et de la finalité de la loi. Galates chapitre 3, c'était un pédagogue, c'est de la pédagogie divine. C'était pour vous conduire à Christ, à la loi de l'Esprit de vie. Ensuite, l'apôtre Paul insiste, puisque vous êtes libéré de la loi, ne vous inquiétez pas, même s'il y a encore des choses dans vos circonstances qui vous disent le contraire, Paul dit, moi je vous dis que vous êtes libéré de la puissance du péché, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, et là avec des réalités bien sûr qui sont spirituelles, c'est ce que j'ai en Christ, c'est ce que je dois aller chercher, c'est ce dont je dois être conscient au fond de mon être, des réalités spirituelles, ayant été affranchi du péché, c'est fait. Maintenant, étant affranchi du péché, c'est fait. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, c'est fait. Ce qui fait qu'il faut déjà que j'arrête, devant mes limites, devant mes failles, devant mes chutes, de dire, c'est plus fort que moi. Parce que j'entretiens un système qui est, un système de pensée qui est antique. Et Paul me dit, non, c'est pas plus fort que toi. Je vais juste te montrer le chemin par lequel tu vas y arriver. Le Seigneur va y arriver en toi. C'est pas la même chose. Et on avait parlé ensemble de cette tension qui existe en nous entre l'esprit et la chair. Le déjà pas encore, c'est-à-dire tout ce que je suis parfaitement en Christ. Et puis ensuite, là, dans mon corps, cette application pratique, la façon avec laquelle il faut absolument que tout ça se mette en marche en moi et que j'aille dans la bonne direction. La vie chrétienne, la sanctification, c'est que je marche, je vais vers ce que je suis déjà. Seulement, si tu n'as pas compris que tu es en Christ, tu n'es pas le diable. Donc, il faut commencer par non, pas la loi, non, pas tes efforts. Et ensuite, tu vas commencer à passer par tel chemin. Et là, l'apôtre Paul, il commence à te montrer, là où tu disais, c'est plus fort que moi, Seigneur, libère-moi, Seigneur, délivre-moi. Et bien, il y a peut-être le démon de la porno, et l'autre, il a le démon de la cigarette. Et bien, il y a des tas une théorie fumante, fumiste dans le milieu évangélique en ce moment. Non, il n'y a rien de tout ça. Je suis, parce que je suis chrétien, né de nouveau, je suis libre du péché. Et il y a des moments, Je suis désolé, non, il n'y a pas le démon de la cigarette, il n'y a pas le démon de ceci. Sans être méchant, des fois je me dis, s'il y avait le démon de la bêtise, peut-être j'y croirais. Parce qu'il y en a peut-être quelques-uns qui l'auraient. Mais la parole de Dieu est claire, on ne peut pas confesser des bêtises et inventer des doctrines qui sont anti-bibliques. Alors oui, il y a une tension en moi, mais l'apôtre est clair et il me rassure. Et c'est là que, le déjà pas encore, moi j'appelle ça le meilleur, parce que passe par le Saint-Esprit, dans mon être intérieur, le meilleur a été déposé. Mais il a déposé le meilleur dans le pire. Et c'est là que du coup, on va avoir ensuite dans les étapes suivantes, l'épître aux Galates est très complémentaire des Romains. Il y a beaucoup d'enseignements qui vont nous faire comprendre, sur la base de ces principes, ce que c'est la marche par l'esprit. Pour toujours aller vers une victoire totale et définitive sur le péché. Et comme je vous l'avais dit, on n'a pas besoin, frères et sœurs, nous, on n'a pas besoin de 5 ans pour vaincre ton agacement, tu n'as pas besoin de 10 ans pour vaincre ta blessure, tu n'as pas besoin de 15 ans pour vaincre une addiction. Plus tu réalises les principes et plus tu t'y investis par la foi, tes progrès peuvent être, comme dit Paul à Timothée, peuvent être évidents de tous. Et tes progrès, ta progression spirituelle peut être très, très, très rapide. Et on n'a pas besoin de se galérer pendant 5 ans. En fait. C'est les mêmes choses. Alors, ce déjà pas encore ce meilleur dans le pire, il dit c'est un peu compliqué quand même. Il a fait exprès le Seigneur ou quoi? Oui, le Seigneur a fait exprès. Les désirs de l'esprit et de la chair sont antagonistes, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. La chair a des désirs opposés à ceux de l'esprit. L'esprit en vous a des désirs opposés à ceux de votre chair, afin, Galates 5, 17, que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez, parce qu'il veut que sans cesse je revienne à Christ, sans cesse ma vie soit abandonnée sur l'autel. C'est la consécration totale. Et ce soir, c'est la quatrième grande vérité de l'Épître aux Romains. Donc là, vous pouvez reprendre avec moi Romains 6. On va lire dans Romains 6, dans Romains 8, 11 et 12. Des textes qui nous parlent de consécration, d'offrande totale de notre vie, jusqu'à l'offrande de nos corps, évidemment, puisque c'est ça le pire, c'est ça qui est compliqué, ma fille. Romains chapitre 6, on va prendre, comme vous le voyez ici, les versets 10 à 22. Jésus est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il est. Ainsi, vous-même, considérez-vous, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, vous êtes sous la grâce et non plus sous la loi. Ça, je ne viens pas, on l'avait dit. Verset 15, pour conforter quand même ceux qui ont encore une appréhension. Quoi donc? Est-ce que nous allons pécher parce que nous sommes sous la grâce? Non, loin de là. Et là, l'apôtre Paul, il va montrer un principe dont on va parler tout à l'heure. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant, il n'y a pas de c'est plus fort que moi, vous vous êtes livré, vous êtes libre en Christ, vous êtes libre de la loi, vous êtes libre du péché. Cette liberté étant retrouvée, il va falloir faire des choix logiques, stratégiques, spirituellement intelligents et les faire vite, mais alors très très vite. Parce que, je paraphrase la pensée de Paul, maintenant que tu as retrouvé ta liberté, il faut que tu comprennes, tu as la liberté de choix. Mais ce à quoi tu te soumets, c'est ce qui va prendre priorité sur toi. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, et vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui vous conduit à nouveau à la mort, soit de l'obéissance qui vous conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que vous avez Après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Même maintenant, vous aviez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Et des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'était la mort. Mais maintenant, étant franchi du péché et devenu esclave, on va en parler de ce terme qui est un peu fort, esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. On va un petit peu plus loin, toujours dans les Romains. On prend le chapitre 8, le verset 28, 28, 29, 30. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On aime beaucoup ce verset-là. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais vous savez que, bien sûr, le Seigneur Jésus a dit, si vous cherchez mon royaume, je vous donnerai tout le reste par-dessus. Mais le bien dont Paul parle ici dans le contexte immédiat, ce n'est pas des biens matériels. Il parle du bien spirituel. Du merveilleux privilège de pouvoir espérer ressembler à Jésus. C'est ça le bien dont il est en train de parler. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et c'est ça le meilleur bien qui puisse arriver à ma vie. Afin que son Fils soit le premier entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. C'est fait, il en a parlé pendant trois chapitres. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. La pensée maîtresse ici, c'est être semblable à Jésus. Et on va un peu plus loin encore. Chapitre 11, verset 36. Je laisserai volontairement les chapitres 9, 10, 11, puisque là, l'apôtre Paul va faire une énorme parenthèse, parce que c'est un sujet qui est très important, mais qui n'est pas le nôtre, qui touche évidemment le peuple juif, lui-même étant juif, se sent profondément concerné, profondément affecté, attristé par le fait qu'il ne veuille pas du Messie. Donc, il va parler d'Israël dans les temps eschatologiques. Romains chapitre 9, 6 et 11. Et il termine le chapitre 11. Revenir à son propos initial, celui que nous étions en train de considérer ensemble, Romains 11, verset 36, c'est la fin du chapitre. C'est de lui, par lui et pour lui, que sont toutes choses. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Il n'a pas dit transformez-vous. Il a dit « soyez transformés », et ça on le développera plus la semaine prochaine, par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez, on en parlera aussi la semaine prochaine, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Dans la pensée de Paul, évidemment, la pensée est un peu plus claire, l'objectif, c'est la sainteté, aller de progrès en progrès, et je peux y aller rapidement vers ce que je suis déjà en Christ. Pour arriver à la sainteté, vous avez pour fruit la sainteté, que nous portions des fruits pour Dieu, par l'Esprit, ça c'est un texte aussi, 7, 4 et 8, 13 qu'on n'a pas lu, je vous les rajoute, que nous portions des fruits pour Dieu, c'est la même pensée, par l'Esprit, faites mourir les actions du corps, et ça on en reparlera dans la marche par l'Esprit, quand on sera sur l'Épître aux Galates. Être semblable, 8-29, être semblable à l'image de son Fils. L'objectif est clair, l'objectif c'est la sainteté. Et quand Paul dit esclave de Dieu, rendez-vous esclave de Dieu, il dit je parle à la manière des hommes, en réalité il est juste en train de faire un parallèle avec notre ancienne vie. Quand nous étions esclaves du péché, là on n'avait pas le choix, là on était dominé. Là, on était dans la honte, on était dans la destruction, nos couples étaient brisés, nos vies étaient totalement détruites, on n'avait aucune liberté de joie, on était juste sous le coup, la tyrannie du péché, et nous ne connaissions Absolument rien d'autre. Et il fait un parallèle, c'est comme s'il disait, excusez-moi, hein, je paraphrase, mais s'il faut choisir, ben, je suis beaucoup mieux sous l'esclavage de Christ. Parce que là, j'ai quand même, j'ai un avenir, j'ai une liberté, j'ai un avenir glorieux, que dans l'esclavage du péché, c'est un parallèle avec notre ancienne condition de vie. Mieux vaut être esclave de Christ. Et puis aussi esclave au sens où, dans d'autres passages, dans d'autres épîtres, l'apôtre Paul parle à un moment d'être esclave volontaire. C'est-à-dire que, toujours pareil, la liberté de choix étant retrouvée, il faut se positionner, c'est la justice. Faire des choix stratégiques, des choix qui, spirituellement, mais concrètement, dans le quotidien, soient des choix intelligents et stratégiques. Et là, c'est là que je vais dire, ben Seigneur, vu comme tu m'aimes, vu ce que tu as fait pour moi, vu ce que tu me proposes, vu la liberté que j'ai en toi, parce que je serai toujours plus libre, même si j'étais esclave de toi, ben Seigneur, je vais te consacrer, te donner la totalité de ma vie. Mais ça, on va voir ça juste après. Le but est clair, vu ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a fait, et vu tout ce qu'on a vu dans les points précédents, l'objectif, c'est la sainteté. C'est quoi la sainteté? La sainteté, c'est pas de l'apparence. La sainteté, ce n'est pas à la façon des pharisiens, quand vous lisez les évangiles, vous voyez des clashs successifs entre Jésus et les pharisiens, les scribes, les sadducéens, etc. Toutes ces sectes juives du 1er siècle. Là encore, la sainteté, c'est pas une succession de règles, d'interdits, les pharisiens pour essayer d'arriver à un niveau de sainteté. Et Jésus leur dit, toute votre justice est un vêtement souillé devant moi. Pour essayer d'arriver à la sainteté, ils avaient rajouté 612 préceptes à la loi mosaïque. Les gens ne s'y retrouvaient plus. Et il n'y avait que eux qui étaient drapés dans leur apparat, dans leur tenue extérieure. Ça, c'était de la poudre aux yeux. C'était des obligations, des rites, des traditions. Et Jésus leur dit, vous avez très bien nettoyé l'extérieur. Mais l'intérieur est toujours aussi. Donc ça, c'est pas vrai. C'est de l'apparence. La sainteté, c'est quoi? La sainteté, c'est la parfaite santé spirituelle et morale de Dieu. La sainteté, c'est la santé spirituelle et morale de Dieu qui plus est en nous par le Saint-Esprit. Pour prendre un parallèle avec mon corps, je dirais que dans le Seigneur, en lui, il n'y a pas de virus. Le Seigneur, il n'a jamais, même pas une petite grippe, spirituellement, même pas un petit rhume. Le Seigneur n'a pas de virus. Il ne connaît aucun dérèglement. En lui, il n'y a même pas, même qu'il voit une personne qui est profondément répréhensible, il n'est pas aveugle sur ce qu'elle est. Il n'est pas aveugle sur son besoin de repentance. Il n'est pas aveugle sur ce qu'il veut et peut faire avec elle. Et cette personne lui résiste, puis lui résiste, puis lui résiste, l'affronte, joue avec sa passion. Mais le Seigneur, la porte de la grâce, tant qu'elle est ouverte, le Seigneur reste absolument patient. Et en lui, il n'y a pas l'ombre du commencement d'un agacement. Il prévient, dit le jour où la porte de la grâce sera fermée, là, la colère s'abattra sur ceux qui n'ont pas voulu de Jésus. Mais pour l'instant, la grâce est ouverte. Donc, le Seigneur n'a même pas le moindre sentiment d'agression. À mon égard, malgré mes limites, malgré tout ce que je n'ai pas encore compris, tout ce que je n'ai pas encore vécu, tout ce que malheureusement j'ai pu négliger ou rater, le Seigneur n'est pas agacé vis-à-vis. Il n'a même pas une seule mauvaise pensée, jamais une seule mauvaise intention. Le Seigneur est parfaitement saint, il est en parfaite santé spirituelle et morale, aucun dérèglement en lui, même pas l'ombre du commencement d'une mauvaise pensée ou d'une mauvaise intention. Ah, mais c'est moi, je suis bien dans tes bras. Je devrais y aller plus souvent, d'ailleurs. Quand Jésus dit, je vous ai mis des passages complémentaires, quand Dieu dit, c'est dans le Lévitique, on connaît ces choses, j'espère. Elle dit à son peuple, je vous ai fait monter d'Égypte pour être votre Dieu, pour que vous soyez saints, car je suis saint. Quand l'apôtre Pierre reprend cette parole et qu'il dit « Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints parce que je suis saint. » En réalité, vous serez saints. C'est pas une baguette, c'est pas une menace, c'est pas un fardeau que le Seigneur est en train de contraindre, que le Seigneur est en train de prévoir. Ouais, vous allez être saints parce que maintenant, vous êtes saints. Les beaucoup de chrétiens, et pardon, les combien de pasteurs, malheureusement,
Et on prêche ça comme si c'était. Il doit être saint. Non, mais la sainteté de Dieu, mais c'est une grâce. C'est un privilège. Dieu me dit, tu te rends compte dans quelle santé je suis. Je voudrais que tu vives ma vie. Je te promets que si tu te consacres totalement, si tu nourris une relation digne de ce nom avec mon esprit et ma parole, je vais te sanctifier, je vais faire des miracles de transformation intérieure en toi. Avant de faire des miracles dans tes circonstances, je voudrais faire des miracles dans ton être intérieur. Je voudrais réellement que tu puisses avoir ma bonne santé spirituelle et morale. Et moi, je fais quoi? Je fais un parallèle avec notre corps. Imaginez que le Seigneur, à partir de ce soir, à partir de demain, vous n'aurez plus jamais dans votre corps le moindre virus. Vous ne serez plus jamais malade. Plus de Covid, plus de cancer. Vous ne serez plus jamais malade. Mais même un petit rhume, vous n'aurez pas le nez qui coule un éternement. Vous n'aurez plus rien. De maintenant jusqu'à votre mort ou jusqu'à ce que Jésus revienne, je ne sais pas, vous serez dans une forme, mais une forme du matin au soir, et du soir au matin, vous serez en pleine possession de vos moyens, 200% physiquement jusqu'au retour de Jésus. Ça vous intéresse? Vous n'allez pas dire, non, merci, je préfère le Covid, hein, c'est bon. Ah non, tout le monde va dire, ah ouais, super. Ben voyez, bien aimé, il n'y a aucune méchanceté dans mon propos, je me prêche toujours à moi-même. Les jours où les chrétiens aimeront la santé spirituelle et morale de Dieu autant que leur santé physique, on fera des très gros progrès et des limites. Parce qu'on n'a pas compris à quel point, quand on est énervé, quand on est angoissé, on n'est pas heureux. Quand je suis inquiet, on ne peut pas être heureux. Il n'y a de bonheur que dans la santé. Mon bonheur dépend en partie de ma santé physique. Quand je ne vais pas bien, ben forcément ça m'affecte dans mon bonheur, dans mon moral. Et quand je vais bien, je me sens en pleine possession de mes moyens, et bien merci Seigneur. Là, je dimension de bonheur. Le Seigneur nous dit, mais si tu savais comme il est heureux dans ma sainteté. Et en réalité, là, si on réalisait, bien aimé, cette promesse du Seigneur, si on voulait bien saisir ça, le Seigneur qui me dit, tu es déjà libre en moi, tu as déjà pris en moi, tu es libéré, tu es affranchi. Et en plus, mon esprit et ma parole veulent le produire en toi. Produire cette sainteté, ce soyez transformé. Et logiquement, je devrais sauter de joie chaque matin. Je devrais faire briller l'aurore. Ah oui, merci. Je devrais, Seigneur, mais super. Donne-moi encore une journée remplie de ta sainteté. Remplis-moi de tes victoires. Remplis-moi de ton caractère. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ta patience. Si vous ne dites pas amen, je terminerai la prédication jusqu'à 10h sans vous. Remplis-moi de tous ces attributs spirituels qui font que tu es toi. J'aimerais tellement être comme toi, Seigneur. Mais c'est tellement un cadeau que tu me fais. Merci, Seigneur. Est-ce que je saisis ce que Dieu me dit au sujet de la sainteté? Est-ce que je le saisis comme une grâce? Est-ce que je le saisis comme un cadeau? Est-ce que je le saisis comme un espoir, un merveilleux privilège, une profonde liberté? Le problème, c'est que par moments, pardonnez-moi, au lieu de dire « Seigneur, je t'en supplie de se laisser briser, de passer du temps, j'ai expérimenté ces choses, je ne me permettrai pas de vous prêcher si je n'ai pas passé. Je ne suis pas parfait, je suis en chemin, mais je ne me permets pas de prêcher si je ne suis pas passé par là. » Mais de tomber à genoux au milieu de ma cuisine, au milieu de nulle part, un jour où j'en pouvais plus de moi-même, je suis tombé, j'ai pleuré, j'étais seul, j'ai dit Seigneur, mais change-moi, je t'en supplie, mais change-moi, je veux être comme toi, Seigneur, j'en peux plus de mon caractère, je ne me supporte plus. Quand tu t'excuses, tant que c'est la faute des autres, tant que tu préfères ton caractère à celui de Jésus, tant que tu te trompes des excuses, tu es dur. Et Je veux aimer cette santé spirituelle parce que c'est véritablement une grâce. Je prends conscience que la sainteté de Dieu, cet objectif suprême, est semblable à l'image de Dieu. Il n'y a rien, il n'y a aucune vie plus belle que ça. Jésus avait la plus belle des vies. Il a le plus beau des caractères, il a le plus beau des états d'esprit, des mentalités. Jésus a la plus belle des vies. Aucune autre vie à part la sienne ne vaut la peine d'être vécue. Il faut que je comprenne aussi, bien évidemment, dans cette sainteté, j'y reviens d'une façon différente, que je ne peux pas. Bien-aimé, on accentuera plus la semaine prochaine. Soyez transformé. Je ne peux pas me changer moi-même. La sainteté de Dieu, je ne peux pas la reproduire. La barre est trop haute, le niveau est trop élevé. L'apôtre Paul l'a déjà montré en parlant de la loi. La sainteté, c'est un attribut du Dieu trinitaire, éternel, infaillible, immuable. C'est un attribut, c'est exclusif, ça lui appartient à lui seul. Je suis le seul Dieu saint, vrai, vivant, véritable et qui sauve. Hors moi, il n'y a pas de Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas de sainteté. C'est un attribut exclusif. Et Seigneur, dans sa grâce, il me le propose. Merci, Seigneur. Et il veut réellement me faire vivre ça et me transformer. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul m'amène à ce grand principe et qu'il éclaire encore avant de parler de la consécration. Il appelle ça comme ça. La liberté étant retrouvée, justifiée par la foi, libérée de la loi, libérée de mes lois, libérée de la puissance du péché, ayant tout parfaitement en Christ. L'apôtre Paul, il me dit, maintenant, mon petit Steph, il va falloir que tu fasses des choses stratégiques, intelligentes, concrètes et rapides. Il va bien falloir la justice, il va bien falloir te positionner. Tu vas faire des choix, ce sont des choix quotidiens. Ne va pas t'imaginer qu'il y aura des choix qui n'auront pas de conséquences. Choix entraîne nécessairement des conséquences. Choisis bien. Tu as la liberté de choix. Et là, il me dit, avant de choisir, je veux juste te dire un truc. Ce à quoi tu vas te soumettre, c'est ce qui va prendre la priorité sur toi. Ne livrez pas vos membres au péché, mais on va passer fort loin. Non, tu ne le fais pas. Ne livrez pas vos membres au péché. Combien de fois je me dis à des jeunes, pardon, qui font ça, dans ma durée. Je dis, je vois des hommes, ou à des femmes, pardon, hein, à des femmes aussi. Il ne faut pas croire que c'est qu'un problème masculin. À des femmes qui regardaient des choses qu'elles ne devaient pas regarder, parce que le cœur de l'être humain, c'est le cœur de l'être humain. Je suis désolé. Il n'y a pas un démon, j'insiste, qui est venu et qui a ouvert ton ordinateur, t'a mis des allumettes devant les yeux, qui te tient comme ça et qui regarde ça. Non, 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 ça ne marche pas. De la même façon, c'est toi qui as allumé ton ordinateur. C'est toi, par la foi, qui va éteindre ton ordinateur et te déconnecter du seul que tu dois te connecter. Je ne fais pas de dessin. Et ça marche dans tous les domaines de nos vies chrétiennes. Il n'y a pas un ange qui va venir et qui va fermer ton ordinateur, qui va te tirer par l'oreille, qui va te faire lever pour réveiller l'aurore. Encore une fois, merci, ça m'a vraiment intéressé. Et qui va te dire, non, ben non, si t'en veux pas, t'en veux pas. Par contre, mais ne te plains pas. Ne livrez pas vos membres au péché. J'ai la liberté de choisir. Donnez-vous vous-même à Dieu. Offrez vos membres comme instrument de justice. Livrez vos membres comme esclaves de la justice. Pour arriver à la sainteté. Et là, merci Seigneur, de rentrer en réalité, je m'aperçois qu'il n'y a pas de fatalité. Je ne suis pas lié. Des fois, on dit, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, je dis, c'est des mots, moi, intelligent, comme j'en ai. Ne livrez pas vos membres. Faites de bons choix. Et la finale logique, puisque je sais que je ne peux pas me transformer, mais que lui, il peut le faire, je vais rentrer dans une dynamique de vie dans laquelle ma priorité, c'est d'avoir ta relation, l'intimité avec lui, pour que l'Esprit et la parole puissent agir et faire ce qu'ils ont, Esprit, parole, Esprit, faire ce qu'ils ont à faire en moi pour que je puisse avancer et aller vers ce que je suis déjà parfaitement en Christ. Et dans ce domaine-là, c'est ça la sanctification. C'est quoi la sanctification, la vraie? C'est pas une sanctification d'apparence. La sanctification, c'est de progresser, d'aller de victoire en victoire, par là, et de progresser vers ce que nous faisons. Je m'en pars de la sainteté que Dieu m'a déjà acquise par Jésus. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va terminer, c'est un peu le trilogique de tout son exposé, de tous ses principes. L'apôtre Paul dit, puisque c'est de lui, par lui et pour lui, ce sont toutes choses, Romains 11, 36. C'est de lui, il est l'origine de tout. C'est par lui, il est le moyen de toute chose. C'est pour lui, il est la finalité de toute chose. C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. Il n'est plus moi, dit Paul, y compris toi, c'est ce que nous sommes. Je vous exhorte, donc, sur la base de tout ce que je viens de développer, je vous exhorte littéralement, le grec est très fort, c'est je vous supplie, je vous presse. Il y a une notion d'instance, il y a une notion d'urgence. C'est comme dans le texte où il est dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Quand on parle à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et là, à ceux qui connaissent le Seigneur, l'apôtre Paul dit, nous en supplions, offrez-vous vous-même tout entier à Dieu. À cause de ses compassions, littéralement de ses entrailles, sur la base de son amour, parce que Dieu vous cherche, il vous aime. Il vous chérit, il attend, il se languit de votre communion, il veut absolument, et sur la base de son amour, parce que il y a quelque chose que j'ai mis des années à comprendre, c'est que frères et sœurs, je suis désolé, Jésus ne nous aime pas, il nous aime. Non, Jésus ne nous aime pas. Jésus souffre d'amour. Il est passionné de nous. Il nous chérit, il nous veut, il nous jalouse, il nous désire. Il a des plans extraordinaires pour chacune de nos vies. Des dimensions qu'on ne peut même pas supposer. Il souffre d'amour, et l'apôtre Paul dit, il nous en supplie, j'insiste, à cause des entrailles d'amour que le Seigneur a pour nous. De céder à cette attraction d'amour et de vous livrer tout entier à lui, offrez-vous tout entier à lui, y compris vos corps. Et quand on a compris ça, c'est pas de l'interdit, c'est pas de la morale, c'est pas de l'obligation, c'est pas des il faut pas. Seigneur, je t'ai tout donné, je t'appartiens. Dans un acte d'amour, je me rends compte que tu m'as fait tout entier à moi, alors Seigneur, moi, mon Dieu, je suis tout entier à toi. Je n'ai pas d'autre priorité que toi. Je n'ai pas d'autre but que toi. Je n'ai pas d'autre envie que toi. Je n'ai pas d'autre joie que toi. Ce que je veux, Seigneur, c'est toi, toi, toi et encore toi. Et voilà la vie que je veux développer. Et quand j'ai compris ça, il n'a pas besoin de m'expliquer. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Attention, tu vas me dire, non. Mes pieds sont en Seigneur. Je le sais, mes pieds sont en Seigneur. J'ai tout payé. Donc, il y a des endroits où je peux former un même fois, des fois, des jeunes, on dit, ah, ici. Ils m'ont pas encore jamais, ils n'ont jamais quitté ici, en tout cas, ils ne l'ont pas proposé. Ils m'ont dit, ah, des fois, on m'a dit, ah, Stéphane, on ne pourrait pas aller évangéliser en boîte de nuit. Non, il y a des tas d'autres endroits où tu peux parler du Seigneur. Tu vois, mes pieds sont au Seigneur, papa, là-dedans. Mes yeux. J'ai compris que mes yeux sont au Seigneur. Donc c'est bon. J'ai pas besoin de lutter pour lui. Non, mes yeux appartiennent à Jésus. Mes mains t'appartiennent. Je suis désolé. Ma langue t'appartient, Seigneur. Comme ça, je ne veux plus dire. Ma langue, elle t'appartient, Seigneur. J'aimerais bien que tu me renouvelles dans l'esprit, d'en parler en langue, pour que je puisse dire des merveilles, de toi, glorifier, apporter des louanges, des actions de grâce excellentes, dire des mystères que mon cerveau ne peut pas, que seul l'esprit, par le parler en langue, peut exprimer, édifier mon âme. Maintenant, oh. Mais toi, ce qui est là. Je n'ai pas envie de parler mal de Jésus. Les oreilles sont à toi, Seigneur. Alors, quand Jeff, ça me dit l'image, Jeff, il vient me voir, il me dit, tu sais, c'est petit, au sujet, de Dieu, s'il te plaît, frère.
Non. Je dis, parce que je sais très bien qu'il est comme ça.
Je dis, non, non, ça, ça ne va pas. Avec la fréquence divine, ça va. Ça, non, ce n'est pas ça, frère. Garde ton cœur, garde ta langue, garde les oreilles. Tout est au Seigneur, oui ou non? Tout est au Seigneur. Consécration rime avec séparation. Adios. Ce qui sera de votre part un culte saint. Offrez plus entier à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable, saint. Adios, mis à part. Je suis totalement mis à part pour lui. Raisonnable. Littéralement, l'apôtre Paul a dit logique au son accord, c'est une définition logique. Parce que c'est du bon sens. Qu'est-ce que je peux faire pour Seigneur que je m'offrir entièrement à toi? Ce sera le véritable culte, un atria, hein. Le culte, c'est le véritable service. Est-ce que je veux, est-ce que vous voulez plaire à Dieu? La meilleure façon de lui plaire, le meilleur culte que vous pouvez lui rendre, c'est pas le dimanche entre midi et midi. Je vais dire un truc dur. Il y a des tas de moments où on parle. Mais il y a des tas de moments où moi, je me suis assis dans des cultes entre 10h et midi. Mais je ne sais pas quel culte j'ai rendu au Seigneur. Parce que le culte, ce n'est pas dimanche entre 10h et midi. Le culte, ce n'est pas le mardi soir. Le culte, c'est mon véritable service, c'est d'être totalement offert à Dieu, de tout lui donner, de tout lui offrir, d'être à lui à 100% et tout le temps. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Lui seul peut me transformer. Je réalise que dans cet acte d'amour qui me dépassera toujours, Jésus a été tout entier à moi à la croix. Alors je dis, Seigneur, oui, moi en retour, je veux être tout entier à toi. Esprit, à 100%, que tu les vois. Voilà ce qu'il attend de moi, voilà le culte, voilà le service. Voilà le raisonnable, voilà le logique, voilà le agréable à Dieu, l'offrande de ma vie entière. Et c'est cette offrande totale et permanente qui va permettre ensuite, ce sera notre sujet la semaine prochaine, d'expérimenter une authentique transformation. Premier bienfait de la consécration totale. Et deuxièmement, discerner les volontés de Dieu. Amen. Et on se recueille. Merci pour votre attention.